Donc là, je vais vous introduire pour la lecture, vous donner quelques repères pour lire la parole de Dieu. C'est juste quelques repères. Après, vous ferez comme vous voudrez. Et puis, l'important, c'est que vous soyez en contact direct avec la parole de Dieu. Donc, alors, c'est ce qu'on a fait déjà, mais vous pourrez le refaire. Toujours, quand on aborde un texte de la parole de Dieu, c'est d'invoquer l'Esprit Saint. Pour dire les choses simplement, c'est lui qui a inspiré la parole et à l'autre bout de la chaîne, il nous aide à la décoder. C'est parce que ce n'est pas seulement une parole humaine, c'est la parole de Dieu qui nous parvient à travers une parole humaine, quelque part, des mots, c'était traduit en français, etc. Mais au-delà de ces mots français, c'est la parole de Dieu, mais c'est l'Esprit Saint qui nous fait rejoindre la parole de Dieu. C'est vraiment un acte de foi d'invoquer l'Esprit Saint, de ne pas croire qu'on va pénétrer la parole de Dieu avec notre propre esprit humain. Donc ça, c'est vraiment... S'il y a un préliminaire, j'en donnerai quelques autres cet après-midi, mais ça, c'est le préliminaire fondamental. On n'aborde pas la parole de Dieu comme on aborde une parole humaine, même si elle est une composante humaine, cette parole, bien sûr. Mais je pense que c'est le préliminaire essentiel. Donc, vous pourrez le faire, voilà. Le refaire. Je vais faire simple. Disons trois moments de la lection, on pourra en rajouter, mais je vous propose trois moments pour ce matin que vous pourrez vivre. Le premier moment, c'est de lire. Ça paraît bête, mais on peut lire un peu distraitement, on peut lire un peu en... Bon, je connais déjà, et puis on va jusqu'au bout du texte, voilà. Mais le premier moment, c'est de prendre son temps pour lire la parole. Alors, le texte que je vous propose ce matin, c'est les noces de Cana. Donc, je pense que vous le connaissez, mais je vous propose de le relire. Alors, vous voyez, j'ai inversé le sens de la salle pour qu'on voit, je vous ai mis quelques liens et dans ce lien, vous avez beaucoup d'autres liens, justement à travers ce site, vous avez donc le lire la Bible en un an du parcours Alpha, la Bible dans ses traditions, c'est la Bible de Jérusalem. Enfin, après, vous accédez à toutes les traductions que vous voulez, mais il y a beaucoup d'autres liens sur Internet, mais ça, je vous mets que 5 liens, je crois, ou 4. Enfin peu importe. Et puis, je vais vous présenter un autre lien que j'aime bien aussi. C'est un site, les 4 évangiles. Et alors, je vous dis ça au moment de lire la parole de Dieu, parce que vous voyez ici, c'est marqué Chouraki, mais ici, vous pouvez avoir aussi la traduction, par exemple, de Sœur Jeanne d'Arc, qui est une traduction plus littérale. Chouraki, c'est assez littéral, mais après, du coup, pour lire, ça peut être intéressant d'avoir différentes traductions, parce que vous voyez que ça attire votre attention sur tel ou tel élément du texte, etc. Donc, le premier moment de la Lectio Divina, c'est vraiment de lire, et de peut-être noter sur un petit papier, ou si vous avez une bonne mémoire dans votre tête, mais un petit papier, qu'est-ce qui attire votre attention, ou peut-être des difficultés qui se posent. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment de faire travailler votre cerveau. La première partie, c'est simplement de lire et de noter ce qui vous vient. Alors, par mon métier, je suis obligé, entre guillemets, de lire les textes de la parole de Dieu quand je dois faire une homélie. Mais c'est important de commencer toujours par lire, parce que on arrive avec ce qu'on est, avec et peut-être à la première lecture, quelquefois il y a quelque chose qui me marque et qui attire mon attention, et c'est souvent là-dessus que je vais prêcher après, pas toujours, mais simplement de lire, prendre le temps de lire. Alors tout à l'heure, donc pour la lecture, vous prendrez le temps de lire, vous aurez votre Bible, mais il y a des feuilles qui pourront vous aider si besoin. Avec le texte de l'Évangile, j'ai pris la traduction de la Bible de Jérusalem, mais ça c'est le premier moment. J'ai distingué 3 moments, selon moi. Le deuxième moment, c'est travailler du cerveau. Ça c'est vraiment un moment important pour ceux, alors il y en a au moins une ici, peut-être 2, qui ont fait des retraites avec le père Caffarel à Troussure, et Et le père Caffarel, il avait installé, alors ça a été modifié depuis qu'il y a la communauté Saint-Jean, mais quand on faisait oraison dans une petite chapelle assez moderne, on avait le droit d'entrer tous les quarts d'heure, bouger tous les quarts d'heure, entre les quarts d'heure. Mais avant d'entrer dans la chapelle, on avait une petite salle qui était dédiée à, justement, à travailler sur la parole de Dieu. À travailler sur la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. Et il y avait des Bibles et des vocabulaires de théologie biblique. Voilà, Et alors, mais c'était très pédagogique de la part du père Caffarel. Il disait, mais si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous tournerez en rond dans votre prière. Avant de faire oraison, lisez la parole de Dieu. Une chose que je vous ai peut-être déjà dit, une fois j'étais allé dans un monastère cistercien et je regarde le programme de la journée et je vois que, donc c'est une communauté contemplative quand même, et je vois qu'il faisait un quart d'heure d'oraison par jour. Alors, mal intentionné, je dis quand même, c'est pas très fort pour des contemplatifs, un quart d'heure d'adoration par jour, d'oraison par jour. Ceci dit, l'oraison, c'est comme la crème au-dessus du lait. Hein. Ils avaient étudié la parole de Dieu pendant 2 heures au début de la journée, et souvent le matin de bonne heure, ils étudient. Donc, et c'est important parce que notre prière, c'est pas d'abord parler à Dieu, c'est d'abord écouter Dieu. Et du coup, il y a ce temps de vraiment, on travaille sur la parole de Dieu. Alors, on peut pas faire lectio divina tous les jours, pour vous au moins. Peut-être celles à la retraite peuvent faire 8 heures de lectio divina tous les jours, je ne sais pas, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent de faire 8 heures de lectio divina tous les jours. Mais c'est important on a besoin de temps. Et, alors, première chose, donc, première partie, c'est la lecture. La deuxième partie, donc, c'est travailler. Alors, je vous ai repris quelques éléments. Vous verrez sur votre feuille, pour la deuxième partie, méditation, je l'ai appelée. J'ai parlé d'abord du contexte. Donc, quand vous avez votre Bible, c'est intéressant de savoir où se situe le texte. Est-ce que c'est dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, quelle partie de l'Évangile? Là, vous verrez les noces de Cana. Vous êtes obligé d'aller voir le contexte. C'est le troisième jour. Alors, le troisième jour, qu'est-ce qui s'est passé les 2 premiers jours? Bien sûr, vous devez aller voir un peu avant dans l'évangile de Saint Jean pour savoir ce qui... C'est important de voir dans quel contexte... Ça, c'est vraiment la première chose quand vous ouvrez un texte de la parole de Dieu. Sinon, on extrait quelque chose de son contexte et ça ne veut pas forcément dire la même chose quand on extrait une parole du contexte. Donc, ça, c'est une première phase. Je ne vais pas être trop long pour vous laisser le temps de lire la parole de Dieu. Quand vous avez une Bible, alors il y en a qui connaissent ça par cœur, mais je le dis quand même, c'est pas vrai des toutes petites Bibles, ou alors ça renvoie des notes au bout, mais pour faire lectio, la première chose c'est d'avoir une Bible avec des notes. Alors il y a différents types de notes. Je vous dis en quelques mots comme ça. Il y a, vous voyez sur le côté, il y a des références. Alors du coup, ça permet d'aller voir dans d'autres lieux où ça parle un peu de la même chose dans la Bible, ou c'est un texte parallèle. Alors, dans ces petites notes, quelquefois, il y a un petit plus après. Ça veut dire qu'il faut aller voir non seulement le texte, mais la note qui va avec le texte. Ou quelquefois, il y a un P, c'est les textes parallèles. Bon, enfin, je n'entre pas dans le détail. Mais je vais vous montrer un autre site que j'aime beaucoup, que j'utilise pour le coup très souvent. C'est ce site, Sainte Bible. J'ai mis donc sur Jean 2.1. Alors, il dit un peu le contexte, mais pas beaucoup, là. Et après, dans les références croisées, du coup, ça renvoie aux autres. D'ailleurs, vous voyez, il se réfère 1.29, et après, le lendemain, 1.35, donc ça doit être le deuxième jour, je ne sais pas très bien. Et puis après, on arrive à Cana. Mais du coup, vous avez plein de parallèles. Et du coup, plutôt que d'aller rechercher dans votre Bible, c'est l'outil des fainéants. Vous cliquez, puis vous avez directement le texte. Voilà, alors, vous aurez le lien sur votre feuille. Voilà, alors après, vous passez au 2-2. Vous voyez les liens. Par exemple, oui, ce qu'on peut faire, c'est le verset... On va passer au verset 4. Bon, il y a plusieurs manières de chercher, hein, mais bon. Il y a plusieurs traductions, il y en a même en anglais, là. Par exemple, vous avez la citation 1 Roi 17-18. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ?» C'est l'expression entre Jésus et Marie, hein, donc, mais il y a des précédents dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Ça aide à comprendre un petit peu. Voilà, ça c'est juste les, c'est le premier type de notes que vous avez dans votre Bible. Ça vous permet de faire des liens. Hein. C'est une, quelque chose d'important, c'est de lire la parole de Dieu par la parole de Dieu. Hein, c'est, alors après, je vous proposerai des commentaires, mais ce qui est premier, c'est de voir dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a une cohérence dans la parole de Dieu. Même si à certains moments, ça semble se contredire, mais du coup, c'est une occasion d'approfondir. Voilà, alors ça c'est un premier type de notes, c'est les petites notes dans la marge avec les références. Un deuxième type de notes, c'est les notes en bas de page. Alors il y a plusieurs formes de notes en bas de page, que je reprenne mes notes justement. Il y a, alors je vais parler hébreu déjà, il y a ce qu'on appelle des notes plutôt de la critique textuelle. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est simplement de... Il y a des notes qui nous disent, bah, tiens, l'Évangile nous est parvenu à travers de nombreux manuscrits, mais ils ne disent pas tous la même chose. Alors, le travail des exégètes, c'est de savoir quel est le texte qui a le plus de chances d'être original. Bon, après, nous, on prend la Bible comme elle est aujourd'hui. Hein, on ne va pas la reconstruire. Mais en même temps, c'est, par exemple, vous verrez dans la dernière note, quand on parle de Capharnaüm, il y a une note, c'est plutôt de type textuel. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans cette note textuelle Cette descente à Capharnaüm, annoncée si solennellement, semble sans objet. Nombre d'auteurs admettent que dans le document primitif repris par Saint Jean, ce récit... En fait, on passait directement au chapitre 4 de Saint Jean. Alors après, c'est des suppositions, on n'est pas obligé d'y adhérer. Mais les gens, quand il y a des... Ils essaient de réfléchir comment s'est construit le texte de l'Évangile. Hein, parce que c'est pas Saint Jean qui, un jour, a commencé à écrire et de A à Z. Hein, il y a eu des reprises, etc. Donc voilà. Alors ça, c'est des critiques textuelles. J'espère que je vous perds pas. Hein, avec. Après, il y a des notes, c'est plutôt pour approfondir... Des notes pour éclaircir un peu le texte. Par exemple, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Cette expression de Jésus, qu'est-ce que c'est ? C'est une expression d'origine hébraïque, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ça met une distance. Et est-ce que Jésus met Marie à sa place ? Ou qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que j'ai cette même expression, on l'emploie aussi entre Jésus et les démons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu raide de dire ça de Marie. Alors, du coup, il y a des notes qui nous essaient de mieux comprendre ce que ça implique. Donc, et ça, toujours simplement avec votre Bible, avec les notes. Après, on peut aller plus loin, mais déjà, de l'apprendre comme ça. Oui, après, vous pouvez aller dans les commentaires proprement dit. Là, par exemple, je vous ai mis, c'est avec Jésus-Marie, alors, c'est la Sainte Bible expliquée verset par verset. Alors, vous pouvez aller dans Saint Jean. Alors, par exemple, il y a Saint Thomas d'Aquin, il y a la Bible. Alors, c'est des commentaires. Saint Thomas d'Aquin, ils appellent ça la Catena Aurea, je pense, ou Schendorf. C'est Saint Thomas d'Aquin qui a recensé ce que disaient les pères de l'Église sur les versets. Donc, mais avant de vous perdre dans tous les commentaires, lisez d'abord la parole de Dieu. Mais voilà, si vous voulez approfondir dans la lecture divine, c'est aussi c'est une source un peu inépuisable. Alors vous cliquez là-dessus, et puis vous arrivez dans la Catena Aurea de Saint Thomas d'Aquin, et puis voilà. Mais il y a 432 pages, bon, vous avez de quoi faire. Voilà. Ça, c'est pour... travailler sur la parole de Dieu. Vous pouvez aussi encore, pour travailler sur la parole de Dieu, le vocabulaire de théologie biblique. C'est un grand classique, ça ne convient pas à tout le monde, mais moi j'aime bien. Par exemple, à la fin du texte de Cana, Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Qu'est-ce que c'est que la gloire? Vous voulez approfondir? Ben vous prenez, vous regardez la gloire, qu'est-ce qu'ils vous disent de la gloire dans la parole de Dieu? C'est une manière parmi tant d'autres, hein, mais... Ah oui, encore une autre manière, je le vois, le catéchisme de l'Église catholique. Une manière un peu différente, c'est à la fin, vous savez, comme vous l'utilisez tous les jours, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de tables à la fin du catéchisme de l'Église catholique. Vous voyez, ça c'est le catéchisme, et ça c'est l'épaisseur de toutes les tables à la fin du catéchisme. Donc c'est deux tiers, un tiers, hein. Il y a un tiers, c'est des tables, et la première table, c'est l'index des citations. De temps en temps, moi, je pars par là, et je regarde l'évangile de Cana, comment il a été utilisé par l'Église. Qu'est-ce que ça a inspiré à l'Église? Alors, je vous ai mis les références sur la feuille là, que je vais vous laisser, dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors, vous voyez, il en parle pour la prière d'intercession, il s'y réfère. Il s'y réfère aussi... pour parler du mariage. Si le mariage était complètement nul, Jésus ne serait pas allé à un mariage, pour dire les choses simplement. Voilà, alors c'est sur Marie qui a ce titre de mère de Jésus, etc. Enfin, c'est quelquefois, c'est intéressant. C'est une autre porte d'entrée pour lire la parole de Dieu. Voilà. Alors, donc, je ne vous ai pas trop perdu, j'espère. La première chose, c'est de lire la parole et de noter éventuellement ce qui vous marque. La deuxième chose, c'est d'étudier la parole, faire marcher aussi son cerveau, et voilà. Et du coup, d'aller voir dans les textes parallèles, les notes, etc., éventuellement le catéchisme. Après, sur Internet, il y a pléthore de choses. Si vous parlez anglais, vous avez encore plus de chance, parce que, alors là, il y a une foule de choses qui existent. Mais déjà en français, vous en avez pas mal, donc... Mais après, il n'y a pas seulement les sur Internet, il y en a qui sont peut-être plus à l'aise avec le papier. Alors, il y a des commentaires. Ça, c'est une collection qui doit être épuisée depuis belle lurette. Mais alors, devant chaque verset, vous avez le texte. Et puis après, il y a les commentaires. Alors, ça, vous en trouvez aussi. Il y en a qui vous conviennent, il y en a qui vous conviennent pas. Hein, c'est comme avec tout auteur. On est plus ou moins à l'aise. Voilà. Alors, il y a pléthore de choses pour vous aider. Encore une autre chose qui peut vous aider. Il y a Bible chrétienne. Ça coûte assez cher, mais c'est très bien. Alors, il y a deux volumes concernant les évangiles. Après, il y en a sur la Genèse, il y en a sur des lettres de Saint Paul, etc. Donc, dans un des volumes, vous avez une sorte de synopse. On met à côté les textes d'évangiles. Et du coup, ça permet de voir... notamment les trois évangiles synoptiques, ça se retrouve quand même pour une bonne part, pas toujours, mais... Et puis l'autre, c'est plutôt des commentaires à propos de ces passages évangéliques. Donc ça, c'est une autre source, mais il y a plein de choses qui existent. Hein, Mais pour aujourd'hui, vous allez étudier, donc il y a une petite feuille que vous avez le texte d'évangile dessus, et vous avez les notes de bas de page. Dans le texte, j'ai rajouté les références, vous pouvez aller voir dans votre Bible, les références qui sont surtout dans la Bible de Jérusalem, mais aussi quelques-unes dans la tome, j'ai mis. Les notes aussi, j'ai pris. Après, j'ai pris quelques commentaires qui avaient été donnés par saint Thomas d'Aquin dans la chaîne d'or, et puis après dans le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Donc, vous travaillez, donc vous lisez, vous travaillez du cerveau, et après, vous priez. Et vous contemplez, ça correspond plus ou moins, pour faire simple, à ce qu'ils appellent l'oraison, chez Cistercien, chez qui j'étais. Là, vous n'êtes plus en train de faire travailler votre cerveau, vous êtes là présent à Dieu, et vous goûtez ce que vous avez découvert, etc. Donc et c'est important de parvenir aussi à ce moment là où vous êtes là pour Dieu. Le but, ce n'est pas de réfléchir sur Dieu, c'est finalement d'être en relation avec lui. Hein, mais en même temps, on a besoin de ce moment de travail, parce que la parole de Dieu, c'est comme une noix, il faut casser la coquille si on veut goûter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà. Alors après, c'est plus le moment que vous pouvez goûter peut-être tel ou tel verset qui vous a. Et là, c'est beaucoup plus passif en quelque sorte. Hein. On n'est pas en train de faire marcher notre cerveau à ce moment-là. On est là pour Dieu. C'est pour dans un temps en couple ou autrement, c'est un temps de qualité à ce moment-là. C'est pas un moment où on discute et voilà, c'est un moment plus. Voilà. Et puis après, ça c'est vraiment en conclusion, c'est après peut-être que le bon Dieu vous appelle à changer quelque chose dans votre vie. Alors, ça c'est vraiment la conclusion après, avant de repartir. Peut-être que vous notez quelque chose sur un petit carnet. Est-ce que vous voyez que finalement, il faudrait que vous preniez 2 heures d'oraison au lieu d'une heure chaque jour. Je ne sais pas, ou vis-à-vis de telle personne, peut-être rectifier un peu votre attitude, ou je ne sais pas. Et puis de remercier le bon Dieu de s'être communiqué à vous pendant ce temps-là. Voilà une introduction pour la Lectio Divina. Donc je vous laisse. Alors, bonne méditation.